France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Je ne veux pas vivre dans un manoir reclus, séparé, pendant que la moitié des gens ont du mal à se chauffer et à manger.
J'estime que voilà, je suis née dans un milieu plutôt favorisé, que j'ai reçu des biens et je trouve que du coup, c'est important de les partager parce que je ne l'ai pas mérité.
Si on augmente encore les impôts sur les travailleurs, cela aura un impact direct sur leur vie, la façon dont ils peuvent s'occuper de leur famille. Alors que mettre un niveau de taxe équitable sur les ménages riches, cela n'aura aucun impact sur leur mode de vie.
Jamais les riches n'ont été aussi nombreux, ni leur fortune aussi élevée. Selon une étude du cabinet de conseil Capgemini, le nombre d'ultra-fortunés possédant 30 millions de dollars ou plus est en hausse de plus de 6% sur un an. Parallèlement, les inégalités augmentent. Et dans son dernier rapport, l'ONG Oxfam a dénoncé l'émergence d'une nouvelle oligarchie aristocratique, héritière de milliers de milliards, exerçant un pouvoir tentaculaire sur nos systèmes politiques et économiques. L'idée de faire davantage contribuer les plus riches fait son chemin. Au G20, le Brésil et la France ont plaidé pour imposer une taxation coordonnée des milliardaires à l'échelle de la planète. Et en France, si le Sénat a rejeté la taxe Zuckmann, impôt plancher sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, le sujet reste sur la table. Quant aux citoyens fortunés, ce ne sont pas tous des champions de l'optimisation fiscale. « Nous sommes riches, taxez-nous », clame depuis 15 ans déjà le mouvement patriotique millionnaire, et il trouve de plus en plus d'écho. C'est ainsi que l'an dernier, l'Autrichienne Marlène Engelhorn a redistribué son héritage de 25 millions d'euros à des associations, sollicitant même le concours d'une assemblée citoyenne pour déterminer à qui elle devait donner. Qui sont ces millionnaires solidaires? Qu'est-ce qui les pousse à aller contre leurs propres intérêts? Et comment agissent-ils pour faire avancer cette cause? Millionnaires militants pour l'équité fiscale, c'est un reportage signé Marie Viennot. Bonjour Marie.
Bonjour Aurélie.
Vous avez donc interrogé plusieurs millionnaires engagés. Dans quelles circonstances avez-vous pu les rencontrer?
Alors je suis partie de la pétition qui a été signée par 260 millionnaires et diffusée à Davos il y a un an et demi et qui s'intitule « Proud to pay more », fier de payer. À chaque fois qu'il y avait une tribune de ce type, je m'en faisais l'écho dans des chroniques. Et là, j'avais vraiment envie de leur donner la parole, interroger ces riches qui veulent passer par le système fiscal et pas le don et la philanthropie, et les trouver en Europe où le mouvement est plus naissant qu'aux États-Unis. Alors je suis partie de cette pétition en me faisant aider par l'organisation des patriotiques millionnaires qui l'avait impulsée. Alors ce fut long de récolter des témoignages, afficher sa richesse en signant une pétition, c'est déjà engageant, se mettre encore plus en avant en répondant à une interview, pas toujours évident. Alors on m'a opposé la crainte d'être mal compris dans son milieu professionnel, rejeté de son milieu amical ou familial. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit craindre pour sa sécurité s'il affichait publiquement sa fortune. Le plus dur en fait, ce fut de trouver des Français, car seulement 4 ont signé cette pétition diffusée à Davos, mais signe que les choses bougent. Depuis janvier, une autre pétition circule et là, c'est une initiative 100% française. Elle émane d'entrepreneurs, créateurs de start-up. Leur message porte spécifiquement sur la taxation de l'héritage et des patrimoines les plus élevés. C'est ce qui m'a permis d'élargir le panel de mes témoins à la France, pays qui brille par le silence de ces très, très, très riches sur le sujet.
Lorraine Bozoul est en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Limoges et vos travaux de recherche portent sur les classes supérieures en France. Vous menez donc des entretiens avec des personnes très fortunées. Est-ce qu'elles sont faciles d'accès? Est-ce qu'elles se livrent facilement?
Non, pas forcément, c'est vrai. Quand on fait des enquêtes sur les classes supérieures, c'est en effet compliqué d'avoir accès aux personnes. Et il faut aussi avoir en tête qu'une fois qu'on a réussi à négocier un entretien, ça peut être compliqué d'avoir aussi accès à une parole qui soit honnête et transparente. Après, on garantit l'anonymat et généralement, nos corpus d'enquêtés sont assez larges. Donc, les enquêtés ne sont pas évidemment identifiables. Et puis, en sociologie, il y a beaucoup d'objets qui sont délicats à traiter et ça n'empêche pas que ce soit un champ tout à fait dynamique dans la sociologie française.
Très bien, alors nous poursuivrons notre échange après avoir écouté le reportage de Marie Viennot qui nous emmène d'abord au Royaume-Uni à la rencontre des patriotiques millionnaires.
Hello.
Patriotic Millionaires.
Je m'appelle Phil White, je suis membre des Patriotic Millionaires UK et je travaille au sein de l'organisation depuis près de 3 ans.
D'où vient votre richesse ?
J'ai travaillé pour cela. Je suis ingénieur de formation. Puis j'ai travaillé pour une société de conseil. J'en suis devenu actionnaire. Nous avons vendu l'entreprise et la majeure partie de ma fortune vient de cette vente.
Vous n'étiez pas issu d'un milieu aisé ?
Non, mes parents appartenaient à la classe ouvrière, ils travaillaient dans des usines et on avait du mal à s'en sortir. Et c'est pour cela que je trouve que travailler en équipe au sein des Patriotic Millionaires donne de la puissance au message que nous portons. On a des millionnaires qui ont hérité, d'autres c'est le travail, comme moi, d'autres c'est la finance. La diversité de nos profils et de nos histoires fait résonner nos voix plus fort et je suis sûr qu'isolés, nous aurions moins d'impact.
Vous avez signé cette tribune intitulée « Fier de payer plus ». Pourquoi ce mot « fier » ?
Fier parce que la société dans laquelle je veux vivre est une société où je peux sortir et voir les gens s'épanouir et tout le pays prospérer. Je ne veux pas vivre dans un manoir reclus, séparé, pendant que la moitié des gens ont du mal à se chauffer et à manger.
Les patriotiques millionnaires plaident pour qu'au-dessus de 10 millions de livres, le capital soit taxé à 2%. Seriez-vous concerné ?
Oui, je serais concerné et je serais heureux de payer. Ça ne m'inquiète pas. Nous avons d'autres propositions sur la taxation des revenus du capital pour lesquelles je suis concerné aussi. Et donc oui, si on m'applique nos propositions, je paierai plus de taxes.
Et si cette taxe de 2% était appliquée, comment vous feriez pour la payer ?
Comme la plupart des gens riches, j'ai de l'immobilier et ce n'est pas directement disponible. Mais beaucoup de mon argent est placé dans des produits financiers, des actions, des obligations. Et donc voilà, je pourrais en vendre un peu, rien de compliqué en vérité.
À votre avis, c'est quoi le blocage pour aller vers un système fiscal plus équitable ?
C'est parce que les riches ont une voix prépondérante, et c'est sans doute lié au fait que la presse populaire appartient en grande partie à des personnes fortunées. Les médias font partie du problème. Mais au final, ce sont les gouvernements qui ont les leviers sur les recettes fiscales et les dépenses. Voilà pourquoi nous devons actionner autant de leviers que possible.
En janvier, c'est à Davos que Phil White, 73 ans, bonnet rouge sur cheveux blancs, a porté ce message et brandit le slogan « Tax the rich » peint aussi en rouge sur un bout de carton carré. 2 ans auparavant, il avait déjà fait ce long déplacement, contribuant à accroître la visibilité des Patriotic Millionaires, un mouvement créé en 2010 aux États-Unis et il y a 4 ans à Londres par l'ancienne directrice de campagne Inégalité d'Oxfam Grande-Bretagne.
Je m'appelle Rebecca Gowland, je suis la directrice exécutive de Patriotic Millionaire International et nous sommes à Londres. Nous sommes dans un club privé et nous allons dîner avec une quarantaine de membres britanniques de l'organisation. Nous en organisons environ 2 fois par an, mais nous avons aussi de nombreux autres événements tout au long de l'année. Par exemple, nous invitons des conférenciers sur des sujets liés aux inégalités, la fiscalité et ce à quoi peut ressembler une économie progressiste. Nos membres ont ainsi l'occasion de discuter de ces questions avec des experts. Mais plus que tout, le quotidien pour nous, c'est d'organiser avec nos membres le travail de plaidoyer, surtout vis-à-vis des médias. Nous avons aussi des événements avec des membres du Parlement auxquels ils peuvent se rendre. Certains de nos membres veulent bien passer dans les médias, écrire des tribunes pour les journaux. Je pense vraiment que leur voix pèse plus. Je ne trouve pas ça juste, mais c'est ainsi. Si vous avez un millionnaire qui passe à la télévision en disant « je veux être taxé plus » et vous devriez taxer davantage les gens comme moi, ça étonne et cela captive. Si moi je passais à la télévision en disant « je veux que vous taxiez les super riches », personne ne m'écouterait vraiment.
Et comment fait-on pour entrer dans cette organisation, pour en devenir membre ?
Il faut être millionnaire pour être membre de l'organisation, oui. Pour nous, il n'y a pas de règle absolue quant au montant de richesse que vous devez posséder. Si vous avez un patrimoine d'environ 4 millions de livres sterling, vous faites partie des 1% les plus riches de la population britannique, ce qui signifie que vous pouvez être membre. Aux États-Unis, leur critère, c'est que vous devez soit avoir un revenu d'$1 million par an, soit un patrimoine de $5 million. Donc, États-Unis, Grande-Bretagne, on est sur des niveaux de richesse équivalents pour être membre.
Ce soir-là, c'est une économiste anciennement proche du Parti travailliste, le Labour, qui vient animer le dîner. Les participants et participantes discutent par petits groupes avant que ça démarre. Champagne ou bière, tenue simple, retrouvailles chaleureuses.
Hello, I'm loving you guys.
Comme beaucoup, Julia Davis n'habite pas à Londres. Elle est venue spécialement de la côte sud de l'Angleterre pour ce dîner. Son capital, il vient de la vente des parts qu'elle détenait dans une marque de bagages de sport créée dans les années 70, aujourd'hui très en vue. We have the power, nous avons le pouvoir, c'est le nom de l'organisation qu'elle a créée. Avec, elle finance la transition énergétique et la restauration de la nature. Elle fut l'une des premières à adhérer à l'association.
C'est un réseau fantastique. C'est tellement agréable de se retrouver avec des personnes qui pensent de la même manière et qui cherchent à utiliser leurs richesses pour avoir un impact positif, ce qui est très très important pour moi. Nous sommes plusieurs à travailler désormais ensemble sur des projets communs. On a créé un groupe qui finance des projets de transitions énergétiques communautaires. On aide à lever de l'argent pour installer, par exemple, des panneaux solaires dans des écoles ou d'autres bâtiments. Aujourd'hui, je me considère comme une investisseuse à impact. J'ai déjà donné le peu que j'avais mis de côté pour faire des dons et je l'ai fait assez vite car je suis persuadée que pour affronter les crises actuelle, tout ce que nous dépensons aujourd'hui vaut beaucoup plus que ce que nous dépenserons à l'avenir. Évidemment, il y a toujours eu des gens aisés et d'autres qui le sont moins, mais ce que nous avons vu au cours des dernières décennies, c'est la concentration de la richesse dans un nombre de plus en plus restreint de mains. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à une forme d'extrémisme de la richesse. Les inégalités ont atteint un niveau extrême et le fossé entre les personnes qui travaillent, qui luttent pour travailler autant que possible, et les personnes les plus riches devient de plus en plus grand. Cela pose un problème démocratique. Celles et ceux qui travaillent doivent payer des impôts en fonction de leurs revenus. Et ce pourquoi nous plaidons, c'est que les plus riches soient soumis au même régime, un taux d'imposition équitable. Personne en Grande-Bretagne ne pourra contester le besoin d'investir pour résoudre les problèmes que nous avons. Je pense notamment à notre système pénal qui est littéralement défaillant. Nos tribunaux ont du mal à poursuivre les criminels. Ils doivent parfois les libérer avant la fin de leur peine. Personne n'a intérêt à l'effondrement du système de justice pénale, quelle que soit la quantité d'argent dont ils disposent. Tout le monde sait qu'il y a besoin d'investir davantage dans la justice. Or, l'argent doit venir de quelque part. Ce que nous pensons, c'est qu'il doit venir des personnes qui ont les épaules les plus larges, les personnes fortunées. Je suis persuadée que ces personnes fortunées savent que nous avons besoin de tous ces investissements pour nos services publics. Quand elles disent « si vous nous imposez équitablement sur notre fortune, nous partirons à l'étranger », en réalité elles disent « nous savons que nous pouvons payer, mais nous ne voulons pas le faire ». Et nous préférons que vous augmentiez les impôts pour ceux et celles qui travaillent, alors même que nous savons qu'ils ont déjà des difficultés. Mais si on augmente encore les impôts sur les travailleurs, cela aura un impact direct sur leur vie, la façon dont ils peuvent s'occuper de leur famille. Alors que mettre un niveau de taxe équitable sur les ménages riches, cela n'aura aucun impact sur leur mode de vie. Vous savez, on est loin de dire que les riches ne doivent pas profiter de leur richesse. Ce qu'on dit, c'est que les personnes fortunées devraient payer un niveau d'imposition équitable. Je pense que si vous avez bâti votre richesse dans un pays, vous avez le devoir de financer les investissements dont il a besoin et de le soutenir.
Au dîner, il y a aussi Mila, prof de maths, héritière, qui a caché à son père qu'elle avait rejoint ce groupe. Graham, qui raconte comment il convainc ses amis que ce qui est public fonctionne encore. Un Belge, discret, patron de pub, que l'adjectif patriotique dérange un peu.
d'autres, c'est plutôt millionnaire qui les met mal à l'aise. Il et elle ont de 35 à 70 ans. Londres oblige, il y a aussi des financiers dans la salle, dont Guillaume Rambourg, le français de la bande. 53 ans, 6 enfants, il a pris sa retraite il y a 6 ans et gère aujourd'hui son fonds de charité.
J'avais du mal à rencontrer des gens qui avaient gagné un peu bien leur vie, qui étaient dans cette logique de dire bah, finalement nous on est dans une position privilégiée et en plus on a des moyens de payer moins d'impôts. C'est vrai que la plupart des gens que je côtoie depuis presque 30 ans ici à Londres, ils sont dans une logique d'optimiser en fait leur patrimoine financier tout en limitant au maximum l'impôt. Et c'est une logique qui, quand j'ai des discussions avec des gens, c'est évident qu'on est tous sur cette même logique, donc j'étais content de trouver des gens qui avaient ce même état d'esprit. Moi j'ai toujours été de gauche, j'ai toujours voté à gauche, enfin jusqu'à Macron, parce que Macron après on ne sait plus trop s'il est de gauche, de droite. Comme Macron, c'est vrai que je suis pas de gauche surtout, donc c'est vrai que j'étais d'accord par exemple avec l'élimination de l'impôt sur la fortune à un niveau aussi faible, entre guillemets, parce que c'est vrai que l'impôt sur la fortune il commence à 1,5 million, 2 millions. Je trouve ça dommage de trop taxer les foyers qui sont en train d'accumuler de la fortune. Mais par contre, je trouve ça aberrant, voire choquant, que les gens les plus riches du monde payent presque pas d'impôts. On ne va pas donner trop de noms, mais en France, on sait très bien que les milliardaires français, en majorité, ils se sont organisés pour pas payer d'impôts. Et donc en Angleterre, c'est à peu près pareil. Et moi, j'ai découvert ce monde, en fait. Je ne suis pas né riche particulièrement. Mon père travaillait aux Nations Unies, ma mère était prof. Mais après, j'avais fait une carrière dans la finance à Londres. Donc j'ai commencé à bien gagner ma vie. Et c'est là que j'ai découvert ce monde d'avocat fiscaliste. Parce que j'étais sur des listes qui m'appelaient toutes les semaines pour me recommander des loopholes, comme on appelle ça ici. Donc des moyens de payer moins d'impôts, de se faire payer offshore, de financer des films, d'acheter des bateaux. Et je ne comprenais pas cette logique, mais par contre, j'ai vite compris que c'était monnaie courante dans ce nouveau monde dans lequel j'étais rentré. Donc il faut mettre un terme à ces avantages fiscaux, à ces loopholes, à ces astuces, à ces concurrences entre pays pour attirer les uns les autres. Donc moi, je connais plein de gens qui sont partis à Monaco, à Dubaï. Je connais même des Français qui ont rendu leur passeport français pour devenir britannique, pour ensuite s'installer à Monaco. Donc ça va très loin, ça peut aller très très loin, cette logique de payer moins d'impôts ou même de se sortir de la fiscalité entièrement. Et après, ce qui m'étonne, c'est que c'est souvent les premiers à se plaindre des services publics, à se plaindre des hommes politiques, à se plaindre de la qualité des routes, à se plaindre de la sécurité. Et tout ça, c'est des départements, entre guillemets, qui sont financés par l'impôt. Donc là, il y a une double contradiction de dire, moi, je me retire de cette obligation fiscale, je ne fais plus partie de la société, mais en même temps, je suis un des plus grands critiques de la société dans laquelle on vit. Donc encore une fois, moi, je ne suis pas pour surtaxer les gens qui sont dans ce processus de bien gagner leur vie. Il ne faut pas les matraquer tout de suite. Par contre, les gens qui sont arrivés à des niveaux astronomiques, là, ça ne fait plus aucun sens. Et là, on est pareil dans cette course. Qui est le plus riche ? Il y a tout le temps les classements des 10 personnes les plus riches du monde. Ça a l'air de plaire. Tout le monde regarde ça. Et donc, quand on est dans cette course, en fait, c'est jamais assez. Quand on a 100 millions, on veut 200 millions. Quand on a 200, on veut 1 milliard. Quand on a 1 milliard, on en veut 2. On se compare toujours à quelqu'un d'autre de son âge, le plus jeune, le plus vieux. Donc, je comprends ce phénomène de course. Mais il y a un moment où, justement, je pense à 1 milliard, où on ne peut physiquement pas le dépenser.
Vous savez combien vous payez d'impôts par an ou pas, vous ?
Là, pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc,
pourquoi ?
Non, parce que là, je ne travaille plus depuis 6-7 ans. Je ne suis pas particulièrement intéressé à faire fructifier mon patrimoine. Donc je suis un peu le cordonnier le plus mal chaussé, donc je ne paye pas beaucoup d'impôts. J'en ai payé beaucoup. Quand j'habitais en France en 2017-2018, j'avais dû payer 12 millions d'euros d'impôts. Donc ça me paraît beaucoup, mais bon, encore une fois, je ne suis pas dans la ligue des milliardaires ou quoi que ce soit, mais je payais régulièrement des 5, des 10, des 15 millions d'impôts sur des revenus à peu près deux fois cet ordre-là.
Et c'est ça qui explique que souvent les riches disent « mais c'est déjà pas mal ce que je paye en fait ».
Oui, c'est beaucoup, mais en même temps c'est énorme ce que j'ai pu gagner comme argent. Donc c'était juste que j'étais dans un bon métier entre guillemets pour gagner de l'argent. Mais j'ai pas une vie beaucoup plus difficile que la plupart des gens qui vont travailler. En plus c'est un métier que j'adorais. Donc oui, je me réveillais à 5h30 du matin, je regardais les marchés, ça m'a un peu pollué la tête. Tous les jours je m'endormais avec mon portefeuille, etc. Mais c'est pas le métier le plus dur du monde, donc j'avais pas l'impression de mériter de gagner 500 fois plus que le français moyen par mon activité, non. Donc pour moi c'était juste normal de payer mes impôts, et j'étais dans une logique de se dire, bah, si des gens comme moi qui ont eu beaucoup de chance de gagner beaucoup d'argent dans un métier où ils sont bons, mais un métier qui est très rémunérateur, si nous on paye pas l'impôt, qui va le payer?
Proud to pay more, fier de payer plus. La pétition déposée à Davos en 2024 a été signée par 260 millionnaires de 17 pays, dont seulement 4 Français. Vous ne les connaissez pas, à part Guillaume Rambourg, désormais. Parmi eux, il en est un qui vit au bord de la Loire, près de Nantes.
Bienvenue à bord du TER Aléa. À destination d'Anceny, il desservira Poiret.
Vous ne trouverez pas son nom dans les 500 plus grandes fortunes françaises qui font la une du magazine Challenge chaque année. D'ailleurs, aucune de ces fortunes n'a signé la pétition. En France, les millionnaires et a fortiori les milliardaires sont taiseux, mais ils sont nombreux. Il y a 2 800 000 millionnaires en France quand on additionne capital financier et immobilier et qu'on retire les dettes, selon les calculs de la banque UBS. La France est quatrième mondiale, derrière le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis.
Oui, bonjour, je cherche Monsieur Henri Ducellier.
Oui, alors il ne doit pas être très loin.
C'est surtout du capital immobilier dont dispose Henri Ducellier et aussi le produit de la vente des actions qu'il avait dans son entreprise.
Ah, bah voilà, il a entendu l'appel. Je vous laisse entre ses mains.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir ici.
Donc là, vous venez d'arriver donc, à Thoiry-sur-Loire. Donc en bord de Loire, juste avant Nantes, dans le sens du fleuve. Et Thoiret, donc vous êtes au château de Thoiret.
Vous habitez ici depuis longtemps ?
Et donc nous sommes, alors mon épouse, donc c'est une maison qui appartient à sa famille depuis 1882. Elle, alors n'est pas née ici, mais est venue vivre, enfin a fait toute son enfance ici, donc à l'école de Thoiret, puis à Nantes. Et ensuite, nous avons, enfin après notre mariage, on a plutôt navigué soit en région parisienne, soit en Normandie. Et nous sommes installés depuis 2022. Donc ça fait tout juste trois ans.
Je vous suis.
De haute taille, ingénieur aéronautique hier, aujourd'hui hôte, quatre enfants devenus grands, Henri Ducellier a fait de ce château familial son outil de travail. Il y accueille des séminaires pour entreprises soucieuses de faire évoluer leur modèle. Un changement de vie radical post-Covid.
Vous avez un salon avec des boiseries 18e.
Et donc on accueille... Henri ne sait plus comment cette pétition est arrivée dans ses mails. Il l'a lu, trouvé sensé d'interpeller les politiques, signé, sans se douter que son nom conduirait tant de médias français à le joindre et de journalistes à l'interroger.
Si vous n'aviez pas changé de vie comme vous l'avez fait, est-ce que vous pensez que vous seriez senti capable de signer cette tribune, justement ?
Je ne sais pas trop dire, parce que je bougeais, ou je voyais les choses différemment, avec un autre regard, donc bon, peu importe, je dirais. Par contre, clairement... Est-ce qu'à 30 ans ou 35 ans, quand j'étais à fond dans ce que le système, dans ce que je pensais qu'était le système et qu'il devait être, bah non, clairement, je n'aurais pas signé. C'est le fruit d'une évolution dans ma manière de concevoir les choses, d'avoir creusé davantage ma foi de chrétien, ce détachement par rapport à l'aspect financier des choses. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un mouvement d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dont la finalité est d'en équipe, en petites équipes, de réfléchir à comment j'aligne ma vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise, avec ma foi de chrétien. Et d'éviter de mettre un mur entre les deux, en disant, d'un côté, je vis ma vie de chrétien, c'est chez moi, dans ma chambre, ou le dimanche à l'église. Et puis après, il y a le monde dans lequel on se comporte comme le monde le demande. Ben non. L'écologie, pourquoi on en est là aujourd'hui ? C'est cette soif d'en avoir toujours plus pour moins cher. C'est là que la spiritualité, je trouve, permet de se dissocier de son propre intérêt pour essayer de voir plus grand. Nous, les chrétiens, on dit le bien commun. Et cette forme de spiritualité, elle aide à se positionner dans le monde dans lequel on vit.
Les rencontres aussi, pendant les rencontres.
Aujourd'hui, je signe. Il y a quelques années, je n'aurais pas signé. Ouais. Et en fait, moi, j'ai beaucoup bougé grâce à mon épouse. Et on est complètement alignés sur tout ça.
Donc, la prochaine fois, il faut que vous signiez la tribune aussi, madame.
Moi, je suis pour la fécondité, pas forcément pour l'efficacité.
Ça veut dire quoi ?
Mais fécond, c'est qu'on est sur le long terme, ça prend du temps. Il y a un côté vivant, c'est transmettre la vie, il faut être au moins deux pour féconder quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société très efficacité, rentabilité, alors que élever des enfants, si on est dans l'efficacité et dans la rentabilité, je pense qu'on se trompe.
Sur le sujet des taxes, vous aussi, vous êtes alignée sur ces idées-là, de pouvoir partager, être plus solidaire?
Oui. Je le suis parce que j'estime que voilà, je suis née dans un milieu favorisé, que j'ai reçu des biens, je les ai en rien mérités, que j'ai reçu une éducation, je ne l'ai pas méritée, ça a été un cadeau. Et je trouve que du coup, c'est important de les partager parce que on les a reçus. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a mérité pleinement, même si on a su les faire grandir, fructifier. Mais c'est important de les partager, parce qu'il y en a qui sont touchés par la maladie, par une déficience intellectuelle, qui sont dans un milieu très peu favorable pour grandir. Je trouve ça, en fait, important de partager ce que j'ai reçu, parce que je ne l'ai pas mérité. En fait, c'est surtout ça. Et que d'autres le méritent autant que moi, mais eux ne l'ont pas eu. Et voilà. Après, c'est le gâchis. Voilà, ou de profiter du système, que ça je trouve intolérable.
Toute la vie dans l'économie, ce n'est que de l'interaction. Et donc, ceux qui ont réussi au sens où le monde nous dit qu'on a réussi, hein, c'est-à-dire beaucoup des questions d'argent, de patrimoine, je pense qu'ils n'ont pas réussi tout seuls et qu'il est sain de se poser des questions sur comment je contribue. Et le système fiscal est un moyen de corriger ça. Et je pense qu'en France, le système, quand même, le prend très fortement en cause. Et je pense que beaucoup de personnes aisées en France n'auraient pas signé cette tribune parce qu'ils considèrent que des impôts, ils en payent déjà beaucoup. Et c'est très probablement vrai pour beaucoup de monde. On va dire, je pense que beaucoup de Français ont le sentiment que l'impôt n'est pas forcément bien utilisé.
C'est votre cas aussi ?
Je ne sais pas ce que je ferais si j'étais aux manettes. Parce que je pense que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on veut bien commenter, hein, et quand on est aux commentaires, c'est tranquille. Ça nous aiderait, nous, Français, à accepter de contribuer davantage si on sentait, d'une part, un État capable de réduire ses dépenses. Or, aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que jamais les dépenses se réduisent. On est constamment en train de créer un nouveau truc pour alimenter un nouveau besoin. Donc je me dis, j'en mets un peu plus, là, demain. Si c'est pour que, le jour d'après, on revienne me voir en disant « Tu vas rigoler, mais en fait, on a encore besoin. » Bon, zut, quoi.
Bon, encore merci pour votre accueil. Je sors par là.
Oui.
Merci encore.
Merci, Mme. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale instaurant un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches.
Mi-juin au Sénat, on examine la taxe dite Zucman, du nom de l'économiste français qui en fait la promotion. Elle vise les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, 1800 ménages. La ministre des Comptes publics y est totalement opposée, tout comme la majorité du Sénat qui va voter contre. Mais elle reconnaît tout de même des failles dans le système fiscal français. Amélie de Montchalin.
La question que vous posez, c'est celle de la suroptimisation du revenu fiscal de référence. Il est vrai que dans notre pays, nous avons le constat, notamment au moment des contrôles fiscaux, qu'un certain nombre de contribuables qui ont des patrimoines très élevés ont des revenus fiscaux de référence qui rendent certains de ces ménages éligibles au RSA ou au logement social. Heureusement, ces ménages ont la décence de ne pas demander le RSA ou le logement social. Et donc c'est bien là-dessus que nous voulons travailler. Donc moi, je ne protège personne à part l'économie, les emplois, l'investissement, la croissance et donc une capacité à être attractif. Ce qui fait que je pousse sans aucune difficulté au niveau de l'OCDE et au niveau européen beaucoup de propositions. Si on l'harmonise au niveau international, sinon on l'harmonise... Oui, mais on peut donner l'exemple, mais si on donne l'exemple tout seul, à la fin, vous savez, on est tout seul.
Bye, bye, Lorenzo.
Bye. I love coming here.
Okay, great.
Faire avancer l'idée d'une taxe sur les milliardaires au niveau mondial, c'est aussi l'un des projets de Gabriel Zucman. Il recevait à la mi-avril, à l'École d'économie de Paris, chercheurs, politiques, étudiants, fiscalistes, pour croiser les connaissances sur ce sujet. Les économistes sont quasi unanimes. Les statistiques publiques dans tous les pays connaissent mal les riches. Alors même qu'ils semblent peser de plus en plus lourd comparé au PIB, le produit intérieur brut. Gabriel Zucman.
Malheureusement, les seules sources disponibles sur l'ampleur des hauts patrimoines français, c'est le classement Challenge des 500 fortunes, c'est les classements Forbes, c'est les classements Bloomberg, et c'est navrant qu'on doive se reposer sur ça. Certes, c'est peu de gens, mais les sommes en jeu sont très importantes. C'est-à-dire que si vous regardez le classement Challenge en 2024, ils disent que les 500 plus grandes fortunes françaises possèdent 1200 milliards d'euros de patrimoine, l'équivalent de 50% du PIB français. Si on prend le classement Challenge en 2010, les fortunes françaises, à l'époque, avaient 200 milliards d'euros. Les 500 fortunes, c'était 10% du PIB. Aujourd'hui, le même classement nous dit qu'elles ont 1200 milliards d'euros, 50% du PIB. Transformation considérable. Donc là, le fait qu'il y ait une absence complète de statistiques publiques sur des masses de patrimoine qui représentent 50% du PIB. Il est urgent que la statistique publique puisse s'en emparer, faire ses propres chiffres qui seront bien meilleurs, nécessairement, que ce que peuvent faire des journalistes sur la base des données publiques existantes.
S'il est un sujet sur lequel les chiffres manquent ou divergent, c'est celui de l'héritage et de sa taxation. Là aussi, les possibilités d'optimisation fiscale sont légion. Or, des milliers de milliards d'euros, 9 000 selon la Fondation Jean Jaurès, vont être transmis en France ces 15 prochaines années. Ne pas les taxer, ce n'est pas bon pour l'économie, affirme depuis janvier un collectif de 115 entrepreneurs et entrepreneuses, surtout issus de la tech. Taxer nos successions, clame leur tribune. Parmi les signataires, Jean-Baptiste Rudel. Ingénieur télécom, il a vécu plusieurs années dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, il vit près de Notre-Dame.
Bonjour.
Enchanté.
Enchanté.
Il a fait fortune en vendant ses parts de Criteo, une entreprise qu'il avait cofondée et qui est aujourd'hui cotée à New York au Nasdaq. Lunettes à grosses branches noires, le bientôt sexagénaire est devenu business angel. Il aide les jeunes à monter des projets. En signant cette pétition, il espère convaincre qu'on peut taxer les successions et que cela soit indolore pour 99% des Français.
On peut toujours penser que c'est les gens plus riches que soi qui doivent faire l'effort. Après, la question, où est-ce qu'on met la barre? Dans la tribune, on avait mis la barre à 10 millions sur l'héritage. Au-delà de 10 millions, on a du mal à me faire croire que ça peut poser un problème aux gens, quoi. Donc, en dessous, on peut argumenter, tout ça, j'ai envie de garder la maison de campagne, de papa-maman, choses comme ça. Au-delà de 10 millions, ça ne marche plus, quoi. Le million supplémentaire qu'on a, sa valeur, elle est de plus en plus faible. Vous gagnez votre premier million, l'impact sur votre vie, il est colossal. Vous gagnez votre 50e million, l'impact, il est très très faible. Vous touchez votre 500e million, l'impact, il est nul. Il est archi nul.
Vous êtes à 500 millions, vous?
J'ai pas dit ça. J'ai dit que l'impact diminue très fort, quoi. Donc après, ça devient plus que effectivement une échelle psychologique, quoi.
Alors vous connaissez l'argument, hein, c'est de dire en fait l'héritage, c'est un patrimoine qui a déjà été taxé. C'est-à-dire on a déjà payer en fait sur les revenus qui ont permis de constituer ce patrimoine, sur les autres systèmes. Donc en fait, c'est ce qui nous reste. Et là, on vient encore nous taxer. C'est de la taxation au carré un peu. C'est ça l'argument souvent sur l'héritage.
Moi, je trouve que c'est un argument un peu spécieux parce que les gens qui héritent, c'est des gens qui n'ont pas encore été taxés, puisque ça leur tombe du ciel, quoi. Donc la personne qui a été taxée, elle est morte. Donc elle, il n'y a plus de préjudice puisqu'elle est morte. Donc quand on me dit que c'est un impôt sur la mort, mais non, puisque les gens qui héritent, ils sont bien vivants. Ils ne sont pas morts du tout, quoi. Quand vous touchez de l'argent sur votre salaire, ça vous paraît normal d'être taxé. Vous touchez de l'argent en héritage, ça ne vous paraît pas normal qu'il soit taxé. Pourquoi? Moi, en fait, ce que je pense, c'est qu'il faut taxer la rente. Il faut moins taxer le travail et qu'il faut plus taxer les gens qui ne prennent pas de risques et qui se contentent de vivre de leur capital, quoi. Si vous investissez dans des petites PME très risquées, c'est pas pareil que si vous mettez votre argent en bourse, où vous êtes essentiellement ce qu'on appelle sur le marché secondaire. En fait, vous achetez, vous vendez, il n'y a pas beaucoup de prise de risque. le placement euro de l'assurance vie, hein, qui est quand même quelque chose qui est très peu productif, quoi. Et c'est ça, en fait, le vrai problème de la France, c'est que le capital est verrouillé sur les gens les plus âgés, quoi. Vous savez que la catégorie qui épargne le plus, c'est les retraités, ce qui est quand même dément, quoi. C'est-à-dire que les gens qui ont moins besoin d'épargner sont ceux qui épargnent le plus. Ils épargnent pour léguer à des gens qui eux-mêmes seront retraités et vont épargner. Donc c'est, on marche sur la tête, c'est dément, quoi. Et les gens qui sont actifs, il y a énormément d'impôts sur eux, ce qui rend difficile l'activité économique, quoi. Quand un pays sacrifie sa jeunesse, sous-investit dans l'éducation de manière terrible, forcément ça va péter, hein. Et c'est les jeunes qui se révoltent, pas les vieux. Les gens qui ont des privilèges, pour qu'ils renoncent à leurs privilèges, il faut qu'il se passe des choses assez graves, en général, et qu'ils aient très peur. Sinon, les gens ne vont pas de gaieté de cœur renoncer à leurs privilèges. Ça marche jamais comme ça dans l'histoire, quoi. Donc, le message qu'on essaie de faire passer, c'est que ce serait dans l'intérêt des riches de mieux partager pour éviter la révolte des pauvres. C'est ça, en fait, si on est très cru, hein.
Et on va prendre l'Overground pour aller à Hampstead Heath, là où habite Nick Marple, un des patriotiques millionnaires que j'avais rencontré au dîner.
Hello.
Hello.
Hi, how are you?
Hi, I'm fine.
Good to see you. Come on in. Come on in.
At the dinner, you said, finally, we're selfish.
Au dîner, vous aviez dit, finalement, notre demande d'être taxée, elle est égoïste, car on a plutôt peur de ce qui peut découler de cette situation. Est-ce que vous craignez aussi une révolte contre les riches ?
En fait, je suis étonné que cela n'ait pas encore eu lieu. Je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est comme si les gens, d'une certaine manière, connaissaient leur place ou pensaient connaître leur place et qu'ils adhéraient à l'idée que les riches méritent leur argent, qu'ils ont d'incroyables talents, travaillent énormément. Mais ça, c'est le message que font passer les riches pour faire croire qu'ils méritent d'être riches. On ne parle pas assez de la chance. C'est un facteur important dans la vie de chacun. Mais pour revenir à la révolte sociale, oui, je suis étonné que cela ne se soit pas encore produit.
Nick Marple sait de quoi il parle. Il a fait fortune en pariant sur le sport dans les années 2000. Il a gagné des millions de pounds. Depuis le Covid, il ne travaille plus, finance son train de vie en vendant quelques placements. Comme tous et toutes, il a son fonds de charité philanthropique et c'est à ça que lui et sa femme consacrent désormais leur temps. Ils ont 2 salariés, des projets au Ghana, dans l'éducation, mais dorénavant, c'est la lutte contre le changement climatique qui absorbe l'essentiel de leurs fonds.
Si vous avez hérité, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai suivi un programme assuré par un groupe appelé The Good Ancestor Movement, le mouvement des bons ancêtres. Ils organisent des cours pour les personnes fortunées sur leur relation à l'argent et leur vision de la richesse. L'idée, c'est tout simplement de devenir un bon ancêtre. Les participants se réunissent environ une fois par mois. C'est là que j'ai réalisé que j'avais assez d'argent et que nous pouvions être plus généreux, donner plus d'argent via notre fonds philanthropique, ne pas laisser l'argent aux enfants. J'y pensais souvent, l'idée a fait son chemin et quand j'ai fini ce programme, j'ai dit à ma femme, il faut y aller plus fort, être plus audacieux. Elle a donc aussi suivi ce programme juste après moi. Les cours sont vraiment bien faits, cela vous oblige à faire une pause, à voir la situation dans son ensemble. On en a rarement l'occasion, vous savez, vous avez la tête dans le guidon, pas le temps de penser, vous êtes occupé, votre fortune augmente et vous ne prenez pas le temps de vous poser pour réfléchir à votre rôle dans la société et votre postérité. À la fin du cours, on doit avoir un plan et savoir ce qu'on va faire de son argent. Est-ce qu'on va le donner ou l'investir de telle ou telle manière? Il y a là aussi l'idée de réfléchir à ce qui serait suffisant. Et puis il fallait répondre à cette question, qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre en œuvre votre plan?
And basically, I said nothing stopping me. Now that, I didn't realize it until they made me think about it.
Eh bien, moi, j'ai répondu que rien ne m'en empêchait.
Je ne l'avais pas réalisé avant que la question soit posée. Ok, j'ai gagné de l'argent. Je savais que c'était bien au-delà de mes besoins. Ma femme était d'accord que nous en avions trop. Et nous ne voulons pas donner beaucoup aux enfants, même si elles feront probablement partie des 1% les plus riches de la population. Donc ce n'est pas grave, on n'est pas en train de les mettre dans le besoin. Nous ne voulons pas qu'elles soient trop riches, trop jeunes. Nous pensons que ce n'est pas bon. Du coup, nous distribuons notre argent. Nous donnons tout. Et c'est une décision facile à prendre, très simple. C'est ma décision et la décision de ma femme. Dans le programme, il y avait d'autres personnes qui ont hérité de leur argent. Certaines étaient de la première génération, d'autres de la cinquième génération. Pour elles, c'est plus compliqué d'en disposer totalement. Je pense que c'est aussi ce schéma qui est en jeu pour les questions fiscales et l'impôt sur la richesse. Hériter, c'est en quelque sorte devoir deviner ce que nos ancêtres auraient fait, ce qui est le mieux pour la famille, pour les générations suivantes, et comment ne pas ruiner la famille.
Je veux les glaçons.
Bonjour. Oui, je vais vous prendre un jus de bicep, s'il vous plaît.
Retour à Paris, dans le 19e arrondissement, à la lisière du périphérique. Nous sommes dans un tiers-lieu, un ancien hangar fantôme de la SNCF, devenu restaurant, salle de concert, ressourcerie solidaire. Sébastien de Hulster en est l'un des propriétaires. Une intrusion dans le monde de l'économie sociale et solidaire pour ce quarantenaire, devenu à 24 ans héritier de la société immobilière de son père, mort prématurément. Lui aussi a signé la tribune « Taxer nos successions ». Un virage aujourd'hui assumé et dont il espère qu'il produira des effets, pas seulement matériels.
Alors est-ce que vous pouvez me dire déjà où on se trouve ici ?
Alors là, on est au TLM. Donc le TLM, c'est un tiers-lieu qu'on a cofondé, co-créé avec Belleville et surtout les associations du quartier. Donc je suis Sébastien de Hulster, je suis entrepreneur. j'ai tous les codes, toutes les caractéristiques de domination, dans le sens où j'ai vécu à Saint-Germain-en-Laye toute mon enfance, école catho, homme blanc, c'est le HSBC, hein, c'est le homme blanc straight catholique, fils d'entrepreneur. Et avec un S, puisque maman a aussi eu des commerces, elle est à la retraite depuis un an, à 74 ans. Et sérieux l'entrepreneur, s'ils ont créé un certain nombre de boîtes. À titre individuel, je considère que l'argent que j'ai mis dans Belleville, dans la cartoucherie, tout ce que j'ai pu faire de cet argent-là, il a permis de créer ces projets qui ont un impact très fort. Des plus forts que si j'avais mis 1 million de plus en impôts à l'État. Donc j'en suis convaincu. La problématique, c'est que si vous nous laissez tous faire nos choix perso, ça marche pas. Bon, je suis convaincu que j'ai mieux mon argent que l'État. Mais collectivement, on a besoin d'un État. Mais même en ayant signé cette tribune, je ne peux pas vous garantir à 100% que je ne ferai pas le montage fiscal optimisé pour ne pas payer le moins d'impôts possible. Et c'est là où je veux qu'on me contraigne. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur celui qui cramait son pognon et qui espère que l'État va lui prendre. Ouais, rendez-nous service, quoi. C'est un peu exagéré. Mais parce que sinon, si c'est pas fait, c'est là où, encore une fois, on répète les jeux de domination. Les gens qui ont de l'argent vont défendre leurs valeurs. C'est-à-dire un philanthrope, une dotation et tout le bazar. Il défend ses valeurs. Donc c'est là qu'il faut casser le système.
Et c'est plus compliqué quand l'argent vient de la famille, en fait, ce chemin que vous faites.
C'est plus compliqué parce que, et encore une fois, moi en plus, mon papa est mort pour ça, quoi. Il est mort pour son travail, quoi. Le 30 décembre, il va signer une promesse de vente. Il y a accident de scooter, c'est accident du travail. Qu'on vit avec ça, c'est pour ça que je disais, on tête dans le guidon pendant X années. Pas de remise en question, on se pose pas trop de questions. Il faut pas trop s'en poser dans ces cas-là, quoi. C'est ultra compliqué. Est-ce que j'ai, au-dessus et en dessous, est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux de cet argent ? J'ai rien acheté qui est pour objectif de m'enrichir depuis 3 ans. Il y a un modèle économique quand même, hein, à la fin, je vais quand même m'enrichir, mais c'est pareil, c'est plus devenu mon enjeu. La problématique en plus, c'est que plus vous gagnez d'argent, finalement, si vous êtes cohérent, il faut le dépenser, donc c'est dépenser, vous polluez, donc ça marche pas, quoi. Je suis passé en location aujourd'hui pour ces raisons-là, pour être cohérent aussi, parce que pareil, dans mon bilan carbone, ma baraque, c'était problématique.
C'était pas pour éviter l'impôt sur la fortune immobilière ?
Non, sur la résidence principale, est bien exonéré là-dessus. Mais la planète, elle survivra à l'homme. Hein. Même si on la fout par terre, ça va durer, je sais pas, 2000 ans ou 10 000, et puis il y aura une nouvelle planète qui arrivera. Mais là, ce qu'on joue, c'est la survie des générations futures, quoi. Pendant longtemps, on n'a pas su qu'on est en train de détruire la planète. Alors on s'est caché les yeux, hein, beaucoup. Hein. Mais aujourd'hui, on le sait. Et c'est ça que je comprends pas. Alors si, là où je comprends, c'est que moi, il y a un moment où je me dis, bah, avec ma position, même quand il fera 50 degrés, j'aurai les moyens financiers de me payer une clim, un endroit qui va bien, ou d'aller dans la région qui va bien. Et je crois pas que ce soit la volonté de tous de se dire, oui, je pourrais sauver mes fesses, mais on va vivre dans un monde horrible, quoi. Je suis serein dans ce que je vais transmettre à mes enfants. Je ne sais pas encore si je vais transmettre une entreprise. Mais en tout cas, je sais que j'aurais fait les efforts pour qu'ils aient un monde meilleur et un monde où les gens se parlent plus. Quand on fait le TLM, je veux que les gens puissent se rencontrer, ce qui est super dur. On a un public bobo, on a les gens du quartier. Et aujourd'hui, ils ne se côtoient pas trop, c'est à des moments horaires différents. Mais au moins, ils partagent un lieu. Mais l'objectif, c'est qu'à un moment, ça se rencontre.
Qu'est-ce qui manque selon vous aux personnes fortunées, très fortunées, qui n'ont pas cette vision un peu sociale et collective ?
Des rencontres. Là, on est à côté de quartiers très populaires qu'on peut presque qualifier de cité. En face de nous, on a des tours. Je me disais, il y a 15 ans, je dis, ah, c'est facile. Et, hein, le mérite traverse le trottoir, là, la fameuse phrase, va trouver du boulot, il y en a. Facile, quoi. Bah non, en fait, quand on côtoie justement les assos, qu'on voit comment ça se passe, non, c'est ultra compliqué. Et c'est là où je suis favorable à quand même un système qui taxe un peu plus, dont l'héritage. Parce que là, par exemple, quand on signe la tribune sur avoir un héritage plus juste avec des systèmes de taxation, alors beaucoup sur les comptes fortune quand même, donc c'est là où on se détache du truc un peu quand même. Et on nous dit, toi, si t'as un problème avec l'héritage, donne tout à l'État et puis va gérer. Mais si on fait ça, on est une goutte d'eau dans l'océan. Donc il faut créer un courant qui fasse que ça change.
Millionnaire militant pour l'équité fiscale, un reportage de Marie Viennot avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour prolonger ce reportage, nous sommes avec la sociologue Lorraine Bozoul, enseignante chercheuse à l'Université de Limoges. La première question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est la représentativité de ces millionnaires engagés ? Est-ce qu'on en a une idée ?
Vous dites dans le reportage qu'il y a 2 800 000 millionnaires en France et qu'il y en a 4 qui ont signé la pétition des Patriotic Rich. Donc je pense que ça illustre bien leur représentativité. En effet, c'est pas la norme.
La petite goutte d'eau.
Oui, voilà. Et la majorité des millionnaires sont plutôt hostiles à l'État, à l'impôt et ont au contraire des pratiques d'optimisation fiscale assez agressives. D'ailleurs, comme en témoignent les personnes dans le reportage qui ont été interrogées.
On entendait effectivement Guillaume Rambourg qui parlait de ces avocats fiscalistes qui sont prêts à trouver beaucoup d'astuces à leurs clients pour qu'ils payent moins d'impôts. Mmh. Comment ça s'explique ? Comment est-ce qu'il justifie ce rejet de l'État, ce regard assez méprisant sur les services publics ?
Alors, je pense que c'est aussi lié à un positionnement politique qui est ancré à droite, et du coup, en effet, qui est assez méfiant vis-à-vis de l'État et de sa capacité, en fait, à bien gérer son argent. Et d'ailleurs, même dans les personnes qui sont pourtant assez ouvertes que vous avez interrogées, il y a
des doutes.
Voilà, il y a des doutes sur comment est-ce que l'argent va être utilisé et sur la capacité de l'État à être capable de réduire les dépenses. Je cite Henri Dusselier. Voilà.
Alors effectivement, vous parliez des pratiques d'optimisation fiscale agressive. Je crois d'ailleurs que quand il y a eu la suppression de l'impôt sur la fortune, les personnes les plus riches ont aussi montré à cette occasion-là que si elles pouvaient garder le plus d'argent pour elles, elles le faisaient.
Oui, en effet, quand Emmanuel Macron a supprimé l'ISF en 2018, il y a eu du coup une baisse des recettes de l'État, ça c'était attendu, mais il y a également eu un effet pervers de cette réforme, qui a été une baisse assez brutale des dons faits aux associations, en fait, puisqu'il n'y avait plus de manière de déduire, en fait, enfin il n'y avait plus besoin forcément d'autant déduire fiscalement. Mais c'est clair que ces pratiques d'optimisation, en fait, elles sont liées au droit qui s'est de plus en plus complexifié. Et donc, il y a de plus en plus de niches fiscales, de possibilités d'abattement, d'exemption. Et toutes ces modifications du droit, en fait, c'est autant de brèches dans lesquelles s'insèrent les avocats fiscalistes pour permettre à leurs clients de payer le moins d'impôts possible. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui.
Marie Viennot.
Oui, ce que j'ai beaucoup entendu aussi parmi les personnes que j'ai rencontrées, c'est on passe pour un idiot si on ne le fait pas, en fait. Mmh. On est mal vu, en fait.
On est un benêt.
Oui, on est un benêt.
C'est ce que dit aussi un peu le dernier enquêté, Guillaume, pas Guillaume Rambourg, le dernier que vous avez rencontré.
Sébastien Dulster.
Voilà, qui dit, mais en fait, on a envie de le faire, quoi. Si c'est possible, on va vouloir le faire.
Marie, une difficulté que vous avez rencontrée quand vous avez voulu affiner les données, faire la différence entre les riches, les ultra-riches, c'est qu'on manque de statistiques publiques précises pour le faire.
Oui, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le débat sur le sujet a du mal à s'engager ou qu'il est très polarisé. En fait, l'INSEE a des données sur les revenus et l'immobilier, car ils sont déclarés au fisc. Mais là, je cite la réponse de l'INSEE à mes questions, il n'existe pas de données administratives couvrant l'ensemble du patrimoine immobilier, professionnel et financier. Or, les personnes les plus riches ont surtout du capital professionnel et financier. On l'entend dans le reportage, elles ne déclarent pas de salaire. Alors, il y a des chercheurs de l'Institut des politiques publiques qui ont cherché justement à faire cette étude et à intégrer le patrimoine professionnel pour voir un peu quelle était la progressivité de l'impôt en France. Ils en ont déduit que les milliardaires, ils étaient à 26% d'impôt, alors que la majorité des Français à 50%. Seulement, le Sénat a rejeté en fait la proposition de loi de Gabriel Zucman, enfin hérité des idées de Gabriel Zucman, avec cet argument que cette étude n'était pas assez fiable en fait, qu'on pouvait vraiment discuter sa méthodologie, etc. Donc en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Comme il n'y a pas de taxe sur le patrimoine, qu'on n'a pas trouvé en fait vraiment comment faire, on n'a pas les données, et donc on dit qu'on n'a pas les données, donc on peut pas le faire, et voilà, ça continue.
Et alors, Lorraine Bozoul, est-ce qu'il y a, en sociologie en tout cas, de plus en plus d'études sur les classes supérieures, ou est-ce que c'est quand même encore relativement rare ?
Oui, aujourd'hui, en sociologie, il y a de plus en plus de travaux sur les classes supérieures. C'est vraiment devenu un objet assez légitime de la discipline. C'était pas le cas encore il y a une vingtaine, trentaine d'années, quand les travaux des Pinson-Charlot étaient... faisait vraiment office de précurseur, mais maintenant c'est un champ qui est dynamique et je crois qu'il y a vraiment un constat partagé de la nécessité de d'éclairer les inégalités en fait à la fois par le haut et par le bas et donc de regarder ce qui se passe aussi chez les plus riches.
Et alors vous par exemple, ça a été qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux plus riches?
Alors moi, je travaille d'abord sur la ségrégation résidentielle, donc sur des quartiers d'entre-soi, et c'est par ce prisme-là que je me suis mis à travailler sur les classes supérieures, en me faisant le constat en fait qu'il y avait très peu d'études sur ces quartiers-là, notamment des quartiers de banlieue résidentielle à Paris.
Fermés
ou pas, il y a les deux. Ça dépend un peu des configurations, et notamment de l'ancienneté du bâti. Mais j'ai des lotis fermé, qu'on appelle du coup des gated communities, et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'entre-soi, d'abord résidentiel, et ensuite en me rendant compte qu'en fait il va de pair avec l'entre-soi scolaire et aussi dans les cercles aussi de sociabilité.
Cet entre-soi, c'est peut-être une des explications de cette réticence à contribuer davantage, puisqu'il y a une perception du monde à travers un certain nombre de filtres.
Oui. Oui, bien sûr. Enfin, c'est à la fois, c'est. Est-ce que je sais pas si c'est une explication. En tout cas, ça.
En tout cas, vous le constatez.
Enfin voilà, ça montre bien en fait justement cette réticence à participer à la chose commune. Et c'est pas anodin justement de faire ce choix de vivre dans des espaces assez protégés, de consommer des services privés pour la plupart des pans de sa vie en termes scolaires, de santé, de sécurité, de transport. Et en effet, ça donne pas forcément envie de participer à l'effort collectif.
C'est-à-dire qu'en tout cas, il n'y a pas au quotidien d'échange. C'est le dernier intervenant du reportage, Sébastien de Hulster, qui parle de l'importance des rencontres pour évoluer.
Oui, en effet, c'est que quand il dit ça, en fait, il témoigne de l'entre-soi et du fait que l'entre-soi, il est assez, il fait qu'on a du mal, les riches auraient du mal à se rendre compte de la portée des inégalités. Après, il faut pas non plus idéaliser la mixité et c'est pas mécanique non plus. C'est pas forcément le fait d'être ensemble qui fait que on va avoir envie de, par exemple, comme les gens interrogés, que l'État taxe plus les riches.
Alors justement, la question peut se poser de comment est-ce qu'on devient un millionnaire pro-impôt.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent, et il y en a un qui est très important, c'est celui de la trajectoire sociale, qui transparaît beaucoup dans le reportage, à la fois chez les héritiers, qui ont ce sentiment d'illégitimité vis-à-vis de leur fortune, qui n'ont rien fait, comme ils le disent, pour en arriver là, mais ça peut jouer aussi dans l'autre sens. Et là, vous avez également rencontré des personnes qui sont en fait en ascension sociale et qui se souviennent d'où elles viennent un petit peu, et c'est ça qui les pousse à vouloir contribuer.
Être dans la redistribution, Marie ?
Oui, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était le Covid qui les avait fait bouger, que en fait, tout d'un coup, ils s'étaient retrouvés à se dire, mais qui est en train de travailler maintenant ? Les travailleurs essentiels. Ça, c'était plutôt du côté de la Grande-Bretagne que j'ai eu ces échos. Et quand même, en toile de fond, vraiment, on sent que le changement climatique, dont on sait qu'il va difficilement épargner des gens, en fait, ça devient aussi un facteur de mobilisation. Et bon, pas seulement chez les millionnaires, parce que je veux aussi citer le fait que il y a deux économistes qui ont signé une tribune avec Gabriel Zucman, qui sont Jean Pisani-Ferry et Olivier Blanchard, qui sont pas exactement normalement sur les mêmes analyses. Et là, ils confortent l'idée qu'il faut effectivement taxer les plus riches, parce que voilà, il y a de l'argent à trouver en ce moment et qu'il faut bien aller là où il est, quoi.
Et en tout cas, il y a une réelle difficulté pour certains d'assumer leur richesse.
Oui, d'ailleurs, même dans le reportage, encore une fois, on le voit. Il y en a qui sont gênés avec l'appellation millionnaire, alors qu'elle est extrêmement descriptive. La femme d'André Dusselier qui dit qu'elle est plutôt favorisée, et ensuite qui dit non, en fait, je suis favorisée.
C'est ça.
Voilà, donc il y a quand même cette gêne, en effet, qui entoure le patrimoine, et qui peut aussi faire qu'on a de plus de mal à prendre position, justement, en tant que riche. Et de se labelliser soi-même comme étant millionnaire.
Mais c'est là que l'héritage peut être perçu comme un fardeau dont finalement certains vont être amenés à se libérer de cette façon. Alors, l'entrepreneur Henri Dusselier, lui, parlait aussi de sa foi chrétienne. Est-ce que les riches croyants se montrent plus sensibles aux inégalités et davantage prêts à contribuer ?
Oui, en effet, j'allais vous le dire, à côté de la question de la trajectoire sociale, la question de l'appartenance religieuse, elle joue également beaucoup. Et la pratique, et la croyance et la pratique religieuse peut favoriser ce type de comportement, puisque l'éthique religieuse, elle valorise l'aide aux plus démunis et l'ascétisme également. Mais cependant, quand même, souvent, ces valeurs catholiques, religieuses, elles vont vers l'importance du don et de la philanthropie, et pas forcément vers une réponse plus structurelle et systématique
étatique.
Étatique, exactement, d'une volonté de taxe. C'est plus.
Ça va être. Est-ce qu'il y a aussi le côté. Le fait que des œuvres caritatives, une fondation qui porte votre nom, ça a aussi un côté gratifiant? Ça vous revient directement?
En effet, il y a pas mal de travaux qui portent là-dessus, sur les rétributions qui entourent la philanthropie. Et en effet, ça peut être aussi une source de légitimité et de rétribution symbolique assez élevée. Après, il ne faut pas non plus caricaturer ces pratiques de dons, qui sont souvent aussi... qui font preuve d'une sincère prise en considération des inégalités et de l'extrême pauvreté.
Et de l'envie de choisir aussi à qui on donne, de diriger son argent.
Dans la philanthropie, en effet, on choisit. Donc ça, c'est un élément très important, qui n'est pas le cas quand c'est la taxe fiscale.
Et on sent même, justement, ça c'est vraiment, je pense, un point important de ceux là qui sont déjà engagés là-dedans, mais qui disent, c'est Sébastien Dulster qui dit « je veux qu'on me contraigne », parce que c'est quand même pas quelque chose de naturel, en fait.
Et en ça, il est extrêmement minoritaire.
En disant ça, oui.
Oui.
Merci Lorraine Bozoul. Le grand reportage de cette semaine, Millionnaire militant pour l'équité fiscale, était signé Marie Viennot. Réalisation Alison Vicrobeck. À la technique, Ludovic Auger. Documentation Sophie Schneblin et Véronique Le Faller. Et puis on verra donc si cette petite goutte d'eau deviendra rivière voire océan. Pour écouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.